Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous regardez ou vous écoutez votre podcast hebdomadaire, le podcast qui transpire le catch où toutes les semaines on analyse Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. On va parler catch pendant une petite heure pour m'accompagner notre technicien de génie, notre réalisateur et patron, l'incroyable Hank. Comment ça va?
Oui, ça va, la régie, tout se passe bien. Nous avons costumé José, Roger et Patrice en femme de ménage. On est prêt pour le segment de Bobby.
Ça va être bon, ça va être bon. Action en direct d'Albanie, ce RAW du 21 mai. On parlera pas que de RAW cette semaine, on parlera aussi du live show.
Heureusement.
De Paris, de Paname.
Et oui.
J'y étais, je vais tout vous raconter.
Est-ce que c'était magique? Puisque généralement
Paris est magique. Spoiler, c'était magique. C'était magique. Voilà, ça ce sera en fin de mission pour les plus fidèles.
Ouais.
Pour l'instant.
Les photos exclusives.
Presque. Alors, oui. Où est-ce qu'on était?
Ah bah là, on est avec Kurt.
21 mai, et oui, en Albanie. À Albanie, pas en Albanie.
En Albanie.
Certains spécialistes de catch l'ont laissé entendre.
Je sais pas s'il y a des milliardaires en Albanie pour se payer des shows. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec la WWE. Il suffit d'avoir le pognon.
C'est ça, ouais. Je crois pas que c'est encore une dictature, l'Albanie. Juste un pays triste.
Non, non. Je sais pas si on fera une parenthèse sur les contrats, mais c'était une semaine pleine de pognon.
Pleine de pognon. Oui, bah, il faudra faire un talking catch pour en parler. Hein, dès qu'on
ah bah voilà. Réclamer
des choses à dire.
Le public, dans les commentaires, réclamer le talking catch. Ouais. C'est comme voilà. ça nous motivera.
C'est un peu de motivation, les enfants. Allez, on démarre le show du 21 mai avec Kurt Angle, le patron qui arrive au ring. Il nous annonce la signature de contrat pour le match du championnat féminin. Nia Jax contre Ronda Rousey. Ronda Rousey. Signature qu'il compte bien présenter lui-même, hein, Kurt Angle, parce que c'est le match le plus attendu de l'année. Mais il est interrompu par une revenante, Stephanie McMahon, qui débarque, qui vient reprendre un peu les commandes du show. Mais d'abord, elle explique à Kurt Angle que tout est pardonné depuis WrestleMania. Hein, on se souvient que finalement, ils sont affrontés en tag team à WrestleMania, d'un côté Steph et Triple H. Et de l'autre, Ronda et Kurt Angle. Donc tout ça, c'est pardonné. Parce que Kurt Angle, il peut devenir un grand leader s'il reste sous la tutelle de Stéphanie, qui va d'ailleurs se charger elle-même de présider la signature du match hein, entre Nia Jax et Ronda. Kurt Angle, il faut aussi qu'il arrête ses largesses envers Roman Reigns. C'est plus possible. Et là, eh ben, ni une ni deux, Roman Reigns, il débarque. Il vient défendre son petit bout de gras. Donc le beau Roman débarque, il interpelle Steph, il lui dit « Écoute Steph, si tu as quelque chose à te dire, tu me le dis en face. » Elle ne comprend pas son comportement là, un peu vindicatif des dernières semaines. Menace de le virer, hein, sous-entend qu'il va falloir aller se trouver un autre travail s'il n'est pas content, Roman. Là, Roman, il ne se démonte pas. Il la menace de détruire toutes ses superstars favorites si elle continue à lui parler sur ce ton. Ouais. Steph explique qu'elle n'a pas de favoris.
Non, Steph lui explique que Braun Strowman existe déjà, donc il faut arrêter.
Il y a déjà un monstre dans la police. Parlons vrai, nous dit Roman. Il accuse Stéphanie de l'éloigner du titre universel, de Brock Lesnar, du Money in the Bank. Le pauvre, il est blacklisté.
Ça fait trois fois que je fais la tête d'affiche de pay-per-view. C'est un complot.
Tu es au placard. Steph, elle lui rappelle que la semaine dernière, il a simplement perdu son opportunité. Et là-dessus, il y a Kevin Owens qui débarque. Il vient remercier Roman. Parce que Roman, en explosant Jinder Mahal la semaine dernière... il a permis à Kevin Owens, qui a remplacé Jinder, de se qualifier pour le Money in the Bank. Oui. Donc, il propose au public, parce qu'il dit il est comme le public, mais le public qui a du mal à se l'avouer, mais il aime bien Roman. Il vient le remercier, il lance des chants « Thank you, Roman ». Et il nous explique aussi qu'il est l'exemple du fait que Stephanie McMahon n'a pas de favoritisme, ne fait pas de favoritisme, vu le passif qu'a Kevin Owens à SmackDown. Hein, on se souvient qu'il a tabassé Vince McMahon, qu'il a eu toute une rivalité avec Shane McMahon, le frère de Stephanie. Là, il met un petit peu son bras sur l'épaule de Steph, qui lui dit « Tu enlèves ton bras tout de suite. » Et du coup, elle book...
Est-ce que c'était une référence à Titus ou pas, ça?
Ça me semble
genre tu peux pas inventer une blague comme ça. Ça me semble tellement, mais bon, je sais pas.
Ouais, ça a dû inspirer. Et donc du coup, en grande heel qu'elle est, en grande méchante qu'elle est, elle book Kevin Owens contre Roman Reigns. Et du coup, c'est le match qui va démarrer. Voilà, donc Kevin Owens affronte Roman Reigns, ça se fout sur la gueule dans tous les sens, ça dure un bon moment, jusqu'à ce que Jinder Mahal intervienne, il vient tabasser Roman, on est deux du coup sur le dos de Roman Reigns, ouais. Là-dessus Roman Reigns est sauvé par le nouveau héros de Monday Night Raw, Seth Rollins, le champion intercontinental. Après la pub, ça s'est transformé en tag team match play-a. Ouais. C'est Rollins et Roman contre Kevin Owens et Mahal. C'est la victoire des gentils. Curb stomp de Seth Rollins sur Kevin Owens. Les gentils fêtent la victoire, mais ils sont attaqués par Jinder qui revient avec une chaise et qui démonte Seth Rollins, puis Roman Reigns. Et ça se termine sur les pauvres Roman Reigns et Seth Rollins en bien piteux état. Alors que Jinder Mahal est raccompagné par le service d'ordre, puis les gens du staff dans les coulisses. Donc, j'ai pas tout compris. Mais au final, ça s'est tapé sur la gueule dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as pensé de cette longue intro? Parce que le match a été très long. La scène d'intro, c'était très long. J'ai résumé vite. Tout.
Je vais tout dévoiler cette semaine. J'ai demandé... Après avoir entendu ce qui se passait à Raw, pas tout ce qui se passait, mais une bonne partie, j'ai demandé autorisation spéciale cette semaine de pouvoir jouer à la PS4 en regardant Raw.
Voilà.
Non mais j'ai quand même regardé le match d'un œil. C'est compliqué parce que il y a quelques trucs que j'ai bien aimés. Dans ce premier segment, mais on en arrive toujours au même résultat en fait. C'est-à-dire que c'est comme si quand ils faisaient un truc plutôt bien, ils comprenaient pas pourquoi il est bien. Enfin, genre ce que dit Stéphanie par exemple, qui est plutôt logique hein, finalement. Y a pas de, enfin limite Stéphanie, je la trouve presque pas heal dans la séquence parce que elle lui explique clairement si t'as un problème va le régler avec Jinder Mahal etc. Et c'est juste à ce moment là que le segment se plante où Roman lui dit je l'ai déjà fait. Et du coup il se passe quoi? C'est quoi la suite de l'histoire Parce que t'es en train de dire va faire tel truc et lui il l'a fait la semaine dernière, donc du coup c'est à ce moment là que ça se plante un peu, voire beaucoup, et ensuite, on a ce match qui
moi, je comprends pas la position de Kevin Owens.
Kevin Owens, il est là, il fait... Les deux, Kevin Owens et Sami Zayn, ce soir, tu sais, ils avancent aveuglément, hein. Ils font leur boulot aveuglément. Donc Kevin Owens, il est là, il vient pour troller un peu sur Roman Reigns. Le problème, c'est que le public est totalement d'accord avec lui. Donc du coup, il se fait pas bouer. Ouais. Hein, Kevin Owens, il est censé se faire... J'imagine, il est censé avoir de la hit. Il a pas de hit, hein, et le public est d'accord avec lui. Donc voilà... dans une atmosphère mais qui est genre confuse où on sait plus ce qui marche pas, on sait plus ce qu'on est censé à quoi on est censé réagir. Donc Donc voilà, non, c'était super confus. La lumière dans tout le... Enfin, pas le segment, du coup, si je compte le match, c'est juste Seth Rollins, parce que Seth Rollins, il arrive, bah, tout le monde est content.
Ouais.
Le match reprend de la vitesse. Puis voilà, on se retrouve avec comment, du coup, un 2 contre 2 après. Ouais, non, je sais pas. Ils auraient presque pu bien le booker. S'il n'y avait pas toute cette surcouche de merde de Roman Reigns qui se plaint en permanence que l'autorité est contre lui, etc., alors que personne n'y croit. Personne n'y croit. Ça fait des semaines qu'on le dit, que tout le monde le dit, que même des anciens catcheurs de renom, que ce soit Stone Cold ou autre, sur leur podcast, ils disent tous que l'histoire n'a aucun sens. C'est pas comme ça que ça marchera. Ils continuent dans cette route de merde. Alors qu'ils auraient très bien pu lui faire sortir de toute cette idée comment, de complot, en le faisant partir sur une rivalité simple avec Jinder Mahal. Mais là, on nous rajoute à chaque fois ce Roman Reigns qui dit: ouais, bah Jinder, tu sais, c'est un plot sur mon passage, quoi. C'est juste ça. Et du coup, ça nous convainc encore plus. Une nouvelle fois, on arrive sur une rivalité de Reigns où on se dit c'est déjà tout joué parce que il en a rien à faire, il en a rien à foutre. On lui dit va t'occuper de Jinder, il dit je m'en suis occupé la semaine dernière. Il a même pas envie de le battre en un contre un. Il y a même pas ce côté-là où il a envie de montrer que voilà que Jinder est inférieur, etc. Non, il le considère même pas, et c'est le syndrome de Reigns qui a eu lieu tellement de fois, et même envers les ceintures, même quand il avait sa ceinture US, il s'en foutait. Le nombre de voilà, c'est pas tout le temps, mais régulièrement, Roman Reigns, il est dans une rivalité, il fait: ah, mais non, mais ça, j'en ai rien à foutre parce que moi, j'ai Brock Lesnar derrière ou j'ai machin derrière, etc. Et il a fait la même un peu avec Samoa Joe. Là, il fait la même avec Jinder Mahal, et non, c'est pénible. Et à la fin, du coup, c'est dommage parce que je trouve Jinder fait des efforts en plus. Jinder joue plutôt bien son rôle. Et le coup de la, et je trouvais ça intelligent, le coup de la chaise, ça montait un petit peu la tension pour la fin et pour nous donner envie de voir le match. L'embêtant, c'est que Jinder a beaucoup plus envie de ce match que Roman. Et voilà,
Ouais.
on essaie de nous monter en épingle un truc alors que derrière, on a Roman Reigns qui en a rien à foutre. Même la façon dont il parlait au micro, il en a rien à faire, quoi. Il est pas en colère. Arrêtez de nous vendre qu'il est en colère. Il est fatigué. Quand il parle, il n'est même pas en colère. C'est
Il n'y a pas
désespérant.
un acting vraiment très percutant, Roman Reigns. Il a pas, il manque d'intensité dans
Et
ses
tout le monde
promos.
est
Ça
là.
fait un certain temps que
Et tout le monde est là pour l'aider,
c'est le
quoi.
problème.
Stéphanie est là pour l'aider, Kevin Owens est là pour l'aider, tout le monde est là pour surjouer le truc, pour que voilà, pour donner de la matière au truc, et lui il est là.
Alors que derrière,
C'est
y a Seth
encore.
Rollins qui est on fire.
C'est
Tout le
les
monde est derrière
politiques
lui.
backstage. Je veux dire, même s'il considère que, justement, peut-être que lui aussi, il considère que c'est une storyline pourrie parce que personne ne va y croire, on s'en fout, joue-la à fond au moins. Parce que là, c'est encore pire, quoi. Lui-même n'y croit pas. Donc, voilà.
Ouais. Ça va être l'affaire à suivre, Roman Reigns, à savoir s'il va réussir à se dépêtrer un peu de tout ça. Est-ce qu'ils vont essayer de nous le vendre encore en main event? Ça va être difficile,
Et un
mais
petit salut dans le chat à Ibra, Brian et FG qui viennent d'arriver.
salut les amis. Bon, on enchaîne. Parce qu'il y a du lourd juste après. Sami Zayn, les amis, reçoit les sœurs de Bobby Lashley, les trois sœurs de Bobby Lashley. Vous vous souvenez, Lashley a fait une interview, il nous racontait son enfance où il était un petit peu martyrisé par ses trois sœurs. Hein. Eh bien, Sami Zayn les a retrouvées, il les reçoit, et bah, évidemment, hein, ces trois mecs grimés en femmes qui débarquent. On a même une qui a eu de la moustache. Donc, on en a une avec le balai, une avec le casque et une avec son doudou crasseux. Bon, c'est The Old Day. Vous vous souvenez The Old Day où... ou This Is My Life avec, avec Bailey. Mm-hmm. Voilà, c'est la même chose, All Over Again. Segment interminable où Sami Zayn interview les trois travelots, là, qui nous explique qu'en fait, si elles ont un balai, un casque ou un doudou, c'est parce que Lashley les martyrisait quand elles étaient jeunes. Là-dessus, Lashley arrive. Il trouve ça rigolo jusqu'à ce que Sami Zayn lui dit que sa famille le déteste. Et puis après, il se fait attaquer et puis il casse la gueule de tout le monde. 4 contre 1, Lashley tabasse les pauvres catcheurs déguisés en femmes. Et voilà, c'était la séquence malaisante de la semaine. Sûrement le pire segment de l'année. Un des pires segments d'Euro de tous les temps. C'est la WWE à son plus bas. Je suis déprimé, mais quand même, Sami Zayn est resté digne, Bobby Lashley est resté digne, et c'était pas facile.
Ouais. Je sais pas. Il y a des moments en fait où t'as un... C'est très rare, mais il y a des moments, il y a des segments qui sont tellement mauvais qu'ils parlent d'eux-mêmes.
Voilà.
Et c'est un peu ça. C'est... Alors déjà, il y a tout le côté... Alors bon, il y en a qui vont trouver que c'est exagéré ou extrapolé tous. Mais bon, bien sûr, il y a ce côté un petit peu se moquer des trans, un peu. Aussi... C'est un humour d'il y a 20 ans, quoi. C'est juste... même...
Je sais même pas s'il y a 20 ans, c'était drôle, une séquence.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il y a 20 ans, c'était drôle, mais je veux dire, il y a 20 ans, le public était assez... je sais pas comment dire. Était pas encore dans le monde qu'on est aujourd'hui, où on commence quand même le public... global commence quand même à avoir une conscience de ce qui est vaguement homophobe, ce qui est vaguement transphobe, ce qui est vaguement etc. Donc on commence quand même à avoir une conscience de tout ça. Donc sortir ce genre de truc et puis c'est tellement mauvais dans de 10 façons différentes. C'est mauvais parce que c'est pas drôle, c'est mauvais parce que c'est de mauvais goût, c'est mauvais parce que Bobby Lashley arrive et qu'il est souriant, parce que ça le fait rire lui aussi. C'est mauvais parce que... c'est juste mauvais sur tellement de points ce segment. Et je crois que c'est plus mauvais... que The Old Day ou que la vie de Bailey etc. parce que là pour le coup ces segments étaient genre vraiment segments de kermesse quoi, mais il n'y avait pas ce côté justement moqueur quoi, et puis moqueur vraiment, on sent que la seule blague qu'il y a dans ce segment c'est le fait que c'est juste des mecs habillés en filles, il y a pas d'autres blagues, ce qu'ils racontent est pas drôle en soi. Et en plus, ce qu'il raconte est vraiment... Il n'y a aucune blague dans ce qu'il raconte.
Non.
Ils sont au premier degré, quasiment.
Non, c'est très mal écrit. Hein. C'est très mal écrit. C'est
horrible. Donc, voilà. Et puis, on a Sami Zayn qui essaie... au moins... comme Alexa Bliss dans le segment de Bailey qui essaie de vendre le truc totalement, au moins on peut lui reconnaître ça. C'est un peu, si je dois faire l'analogie avec Roman Reigns, tu vois, Roman Reigns, même s'il considère qu'on lui file de la, enfin, s'il considère qu'on lui file de la merde, il fait aucun effort. Au moins eux, ils ont vraiment de la grosse merde. Ils font des efforts pour la vendre quand même. Donc, donc voilà, ouais, segment assez horrible. Et coucou à Tristan et Malik qui viennent d'arriver sur le chat. Je lirai vos commentaires.
Ouais, je répondrai à la question de Malik sur les chants. Oui, bande Petio à Paris-Bercy, en fin d'émission, hein, quand je ferai ma petite review. Alors ouais, bah, en fait, mais bon, moi je trouve que Sami Zayn quand même a été impérial de s'en sortir dans une séquence aussi merdique. Il mérite un titre universel, hein, pour avoir subi tout ça. Voilà, espérons que ça débouche tout ça sur un bon match au moins. Est-ce que Vince se rend compte de la qualité de ses shows, nous dit Tristan? Bah visiblement non, hein, sinon il ferait quelque chose.
Ça dépend, en fait, le truc c'est que qualité a plusieurs définitions, et Vince a une définition de qualité. c'est comme le contrôle.
Il faut trouver le mec qui écrit ces séquences-là, ça doit être le même, hein, qui fait toutes ces séquences de merde et
qui lui interdire d'écrire. C'est Hans Wagel.
Ouais.
C'est quelqu'un qui est caché dans son bureau et donc du coup j'imagine Hans Wagel parce qu'il prend pas beaucoup de place. Oh la vanne sur les petits. Non, je ne devrais pas.
Salut Richard.
Salut Richard. Arrivé. Ronul. Bon résumé.
Ronul, bah oui.
Mais on va quand même continuer.
Imagine-toi ce qu'on est obligé de subir. Ember Moon affronte Alexa Bliss. Et oui les amis.
Et oui.
Bliss est interviewé par René Young avant le match. Mm-hmm. Elle nous fait une petite leçon d'histoire. Je crois que c'est les Visigoths contre les Romains, un truc comme ça qu'elle nous raconte. Où les Romains avaient perdu parce qu'ils avaient été attaqués par surprise. Mm-hmm. C'est un peu ce qui lui est arrivé la première fois qu'elle a affronté Ember Moon. Voilà. Donc elle vient au ring accompagnée de Mickey James. Au bout d'un moment, Mickey James, qui tente d'intervenir dans le match, est renvoyé au vestiaire. Et bah c'est Ember Moon qui gagne grâce à l'éclipse, tout simplement. Que dire de plus ? Ember Moon qui est un peu mal positionné quand même pour son arrivée, parce qu'il y a Ronda qui prend le spotlight. Mm-hmm. Ça lui laisse peu de place pour faire quoi que ce soit. Maintenant, le match était plutôt cool. Je ne sais pas ce que tu as pensé de tout ça.
Ouais, c'était correct. Après, le truc qui me chiffonne un poil, c'est que la semaine dernière, on nous revend Alexa Bliss comme entrante dans le Money in the Bank. Et cette semaine, elle perd direct contre Ember Moon. Sèchement. Je sais pas combien de temps a duré le match, mais disons qu'elle s'est fait déjà battre deux fois, du coup, par Ember Moon, là. Donc, c'est pas forcément génial pour Alexa Bliss. J'aurais plus vu j'aurais vu d'autres personnes perdre contre Ember Moon plutôt que refaire perdre Alexa Bliss, mais sinon oui non le match était correct. Alexa Bliss a bien scellé le l'éclipse,
c'était Mickey James.
Pas autant que Mickey James, parce que Mickey James c'était le trampoline, quoi. Mais ouais. Non, mais c'est correct.
Correct.
Rien de spécial, de toute façon, ça nous apprend pas grand chose.
Ouais, c'est du remplissage pour la semaine. Voilà, allez, on va dans les coulisses. Gay Baylor et Gentil Strowman veulent une revanche contre McIntyre et Dolph Ziggler. Donc, hein, parce que la semaine dernière, ils ont perdu contre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Steph, plutôt, elle va booker Strowman contre Baylor. Alors, Strowman, il prend une pomme et il éclate une pomme. Voilà. Et oui, donc, en main event, on aura Strowman contre Baylor.
Si tu donnes pas la petite phrase avec, on comprend pas grand chose.
C'était quoi la petite phrase? Je vais t'éclater comme une pomme?
J'aime la compétition!
J'ai cru, j'aime la compote.
J'aime la compote. Il aime bien la compote aussi. Voilà. Dans les mains. Il mange la compote que dans les mains. Quand il se fait une compote brune, en fait, il prend juste deux pommes, comme ça, il fait.
Voilà.
Après, il bouffe. Écoute, c'est. Stéphanie fait ce qu'elle veut. De toute façon, on commence à être habitué aux main events qui veulent pas dire grand chose ces dernières semaines. Donc
voilà. Voilà, puis une belle affiche Strowman.
Non, mais c'est une belle affiche. Hein, mais à chaque fois, autant. C'est une belle affiche, le main event. C'est juste que c'est relié à rien du tout. C'est juste des belles affiches comme ça. Mais oui, ça va donner lieu à un bon match.
C'est ça. Bon match. Mais bon match, c'est pas tout de suite, puisque d'abord Noé Rossé affronte Baron Corbin. Voilà, conclusion de la rivalité Baron Corbin-Noé Rossé. Victoire nette de Baron Corbin sur End of Days. Mm-hmm. Bah oui, ouais, c'est
incroyable. Il a dû carrément, je sais pas si t'as vu, il a dû carrément se baisser hein, pour le finir le...
Ouais, c'est pas facile Noé Rossé. Hein. Il danse bien mais... tout ça, mais le catch c'est pas encore ça.
Il y a pas mis du sien. Je voyais Baron, je me dis merde, il va pas se cogner la tête par terre. À la fin de ça, mec. Bah ouais, mais bon. Écoute, Noé, profites-en hein, parce que je pense que ça va être le sommet de ça va être le sommet de sa carrière à Raw, cette rivalité. Équipe, ouais. Ouais, bah on remplit.
Bah les Dentistus Worldwide.
Qui ça, Noé? Bah oui.
Ouais.
Bon, tout ça sent tous les. Tous les cassos
d'euros.
Je sais pas quoi dire. Ça va être. Je vais essayer de varier mes commentaires sur ce euro, mais.
On va faire FISA. Hein.
Alors tu penses quoi de cette rivalité? Non.
Une rivalité. Kurt Angle n'a pas de réseau cette semaine. Parce qu'il a été relégué au sous-sol. Stéphanie a pris son.
Ah voilà un segment qui était marrant.
Ouais. C'est voilà donc il est coincé au sous-sol, il a plus de réseau, il y a Chad Gable qui débarque. Chad Gable qui est visiblement le vrai fils de Kurt Angle hein, quand on regarde bien.
Ouais.
Donc Kurt Angle lui dit oui j'aurais préféré que ce soit toi à la place de Kevin Owens pour le Money in the Bank la semaine dernière, mais bon Stéphanie a mis la pression. Là-dessus, il y a McIntyre et Ziggler qui débarquent. Ils se foutent un peu de la gueule de Kurt Angle qui a perdu son bureau. Chad Gable prend la défense de Kurt Angle. Ziggler lui dit mais qu'est-ce que tu veux toi? C'est quoi ta spécialité? T'as été un bon catcheur amateur dans le temps, c'est ça? Mais qui ne l'a pas été? Dit-il en rigolant. Hein, parce que Ziggler effectivement a une belle carrière aussi de catcheur amateur. Kurt Angle aussi. Drew McIntyre, je sais pas, mais il en a pas besoin. Donc on se menace un petit peu et Kurt Angle book un match pour un peu plus tard dans la soirée.
Ouais. J'ai bien aimé la partie de la vanne de Ziggler où il dit à Kurt Angle j'aime beaucoup ce que t'as fait avec la déco le tuyau vers les égouts enfin le tuyau des égouts juste là. Je l'ai trouvé plutôt efficace. Inspiré.
Alors bon ça on reviendra au match un peu plus tard. Pour l'instant, c'est la team qui fait sensation, la nouvelle équipe star de Raw, la B-Team, Bo Dallas, Curtis Axel, qui débarque pour affronter la Fashion Popo, la Fashion Police.
J'ai pas fait un B. Oui.
Ouais, pas mal. Okay. Incroyable victoire de The B-Team. Énorme célébration après match, hein. De cette victoire
oui.
À l'arraché de Bo Dallas et Curtis Axel, ils vont piquer le siège de Coachman pour se jeter l'un sur l'autre dessus, dévaler la rampe d'accès. Ils sont vraiment heureux, ça fait plaisir à voir. Ils emportent la foule dans leur victoire incroyable. Voilà, alors, ça c'est une séquence plutôt.
Sont meilleurs que leur match pour l'instant.
Oui. Oui, le match a été très court. Hein. Victoire nette avec leur espèce de prise de finition, là, espèce de brise-nuque avec souplesse. Voilà, bah, The B-Team, ça continue, c'est rigolo. Fashion c'est... Police aussi, c'est rigolo, c'est ce qu'il faut dans les...
Un grand build.
Voilà.
Un grand build à base de troisième match contre Fashion Police la semaine prochaine.
C'est ça, la revanche de la revanche. Faut qu'ils se battent en single. Voilà, bon, les autres sont invisibles, hein, les champions actuels. C'était un peu ça la division tag team cette semaine. Voilà, formidable. Un peu pauvre.
Non, mais bon, ils attendent, ils laissent le revival souffler une semaine avant de se faire rebattre la semaine prochaine.
Pareil qu'ils les ont renvoyés à NXT, The Revival.
Ils étaient en live show. Je crois. Ah, ils sont intervenus en live show Revival et il y a eu qui d'autre aussi qui est revenu
Ty Dillinger?
Bah peut-être. Je sais plus, il y a eu deux ou trois
Non,
retours
des
comme
filles,
ça.
non, c'est pas des filles qui sont retournées. Ouais, je sais
Ça,
plus.
c'est, je sais plus. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, mais il y a eu quelques petits retours pour un show NXT, pour pimenter le truc. Ça, c'est un signe de rien, hein, vous inquiétez pas. Hein,
Alors, Malik nous demande si la WWE ne croit plus aux équipes. C'est la rumeur. La WWE n'a jamais cru aux équipes.
Est-ce qu'il y a encore un segment avec des équipes là-dedans ce soir? Ah oui, il y a non. Enfin,
Non?
il y a Ziggler, ouais. Ziggler, mais justement, c'est ce dont on parlait un peu cette semaine. Enfin, je lui en parlais un peu, c'est surtout moi. De Ziggler, McIntyre contre Gable. Et c'était Ziggler contre Gable. Et je trouvais ça tellement, tellement dommage que Jordan soit toujours pas là. Et franchement, c'est le moment. Votre division tag team, on en a parlé la semaine dernière. Elle est en train de, voilà, être en train de souffrir, en train de mourir. Et c'est pas vraiment avec les, c'est pas avec ce qu'ils ont pour l'instant qu'ils peuvent un peu raviver la flamme. À moins de ramener Authors of Pain. L'embêtant, comme je disais, c'est que Authors of Pain, bah, ils détruiraient un peu tout le monde et tout ça. C'est un peu compliqué de les. Ou alors, enfin, faudrait un push stratosphérique ou une équipe qui est à peu près dans le même gabarit. Et justement, si on a, par exemple, moi, je verrais bien un Ziggler McIntyre contre les Authors of Pain, ça pourrait marcher, je pense.
Où
Mais
sont les Authors of Pain d'ailleurs, tiens? Ah ouais, tu vois, ils
je ne
arrivent
sais
même plus à
pas.
faire venir des nouvelles équipes. Sanity a pas débarqué à
Est-ce qu'ils prennent
SmackDown.
des cours d'anglais? Peut-être. Je ne sais pas.
Peut-être,
Non,
ouais.
non, non, mais il parle bien anglais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc du coup, Jordan Gable, remettez Jordan et Gable ensemble quand ils reviennent. Parce que on sent que Gable, là, moi j'aurais tellement vu le Jordan Gable contre Ziggler et McIntyre, ça aurait été bien.
Ben.
Jordan, il va avoir vraiment du mal à s'imposer tout seul là maintenant. Donc voilà, ça ferait du bien. Je sais pas comment vous l'écrivez, mais en fait, revenir l'American Alpha. Hein.
Ouais, voilà.
C'est
Ça,
juste.
c'était quelque chose qui fonctionnait.
Ouais.
Ibra nous mentionne que c'est Tyler Breeze qui est retourné à NXT.
Ah oui.
Ce qui est.
Ouais.
Ça, c'est dur, par contre.
C'est dur.
Ouais,
Mais c'est
alors.
peut-être en coïncidence avec le fait qu'il soit allé. Il paraît qu'il avait live tweeté du mariage. Royal et que donc du coup il y avait peut-être un show NXT à Londres. Ouais, on remarque, non, mais il était à Raw aussi pour Londres, je crois. Bon, autant pour moi.
Ouais, écoute, va savoir.
Sanity est
C'est
toujours à
comme
NXT,
ça.
ouais.
Ouais. Mais normalement, ils ont été annoncés à SmackDown.
Oui,
Donc, bon,
oui.
ils arrivent même plus. Ouais, la WWE. Enfin, Vince McMahon ne croit pas au tag team, ça fait très longtemps. Hein. Alors, quand on a Cesaro et Sheamus qui se mettent ensemble et qui volent les shows à chaque fois, forcément, ils s'imposent. Mais sinon,
Et heureusement,
c'est pas
Vince ne
ce qu'ils mettront
regarde
en
pas
avant.
SmackDown, donc du coup, SmackDown a le droit de faire un petit peu de choses avec les tag teams.
C'est ça, exactement. Mais bon, on aurait pensé que les Authors of Pain auraient pu séduire Vince, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression. En tout cas, le revival, ça va être difficile pour eux. Avançons. C'est l'heure de la signature du match de l'année. Nia Jax contre Ronda Rousey. Stephanie McMahon qui vient, qui jette de l'huile sur le feu, qui prend. C'est elle qui fait tous les dialogues. Hein.
Ouais,
D'un
c'est
côté,
ce que j'allais
elle
dire en
explique
fait.
que.
Le segment est réussi, mais pas. C'est parce qu'il y a une seule personne qui fait le segment, quoi.
Voilà, elle fait tout le boulot. Hein.
Mmh.
Elle va d'un côté, elle attaque Ronda et dit: Ah, Ronda, on sait que tu supportes pas la défaite. Si Nia Jax gagne, tu vas te disparaître comme tu l'as fait à l'UFC. Après, elle se retourne de l'autre côté, du côté de Ronda, puis elle attaque Nia. Elle dit: Mais toi, Nia Jax, t'arriveras pas à gagner parce que t'es une grosse feignasse. Après, elle revient à Ronda et dit: Ah, mais Ronda, tu pourras pas apporter une clé de bras contre Nia Jax, elle est trop costaud, elle est plus forte que toi. Là, elle retourne vers Nia, mais là, Nia Jax, elle en a marre, elle se lève, elle dit: Non, c'est pas comme ça que ça se passe, j'en ai marre de tous ces salamalecs, je vais battre Ronda Rousey. Ronda Rousey dit: Ah, voilà, je te reconnais bien là, Nia Jax, voilà la vérité qui a éclaté. En fait, tu m'aimes pas, mais c'est pas grave. Puisque bah, Money in the Bank, je vais prendre ta ceinture et je vais te prendre ton bras aussi, je vais t'arracher le bras. Ronda d'abord tout sourire hein, quand elle lui dit c'est pas grave, elle lui serre la main et après elle tient la main férocement en la menaçant de lui prendre sa ceinture et lui arracher le bras. Ouais. Alors j'avais pas le son très fort quand j'ai regardé le show, j'ai pas l'impression que ça avait popé plus que ça quand Ronda a sorti sa phrase. C'était pas voilà, ça a peut-être pas eu l'impact qui arrivait, qui aurait dû, mais c'était pas très bon.
Attends,
non plus,
qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il y a pas de prétexte. Le seul prétexte, c'est que Nia Jax. J'ai bien aimé le... Franchement, je sais pas si c'est Stéphanie qui a écrit son propre texte, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pour le peu qu'ils avaient, c'était vraiment bien écrit. Surtout la partie où Stéphanie dit, bien sûr que Nia, tu vas choisir Ronda Rousey parce qu'elle a pas d'expérience. Parce que tu pèses genre... Ah oui, oh, j'ai bien aimé le passage où... c'était magnifique, le passage où elle lui parle du fait qu'elle a mis genre 20 minutes à battre Alexa Bliss. Ça, c'était... Oh mon Dieu, c'est le truc que tout le monde pense depuis tellement de semaines. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à essayer de trouver Stéphanie McMahon sur vos forums de catch. Elle est sûrement quelque part en train de lire
de troller.
Mais donc ouais, non, clairement, c'est juste Nia Jax qui pèse 4 fois le poids d'Alexa Bliss et mesure 2 fois sa taille. A mis 20 minutes, donc du coup, clairement, oui, tu peux lui dire, écoute, en même temps, voilà, t'as mis 20 minutes à battre Alexa Bliss, donc qui sait si tu vas réussir à battre Ronda Rousey, qui a une taille normale. J'ai trouvé, par contre, l'argument du côté Ronda un petit peu, genre, j'espère que ça sent le gimmick auquel ils vont puiser pendant des mois le truc de la clé de bras.
Ouais, ouais.
Et j'aimerais bien qu'on passe à autre chose, mais bon. Donc oui, c'est sûr que là, il y a de la matière. Pour faire une clé de bras, ça va être compliqué. Enfin, ils vont sûrement en faire une avec un selling de ouf où personne ne va y croire.
Je sais pas, il fignole quand même tout ce qui tourne autour de Ronda Rousey. Je pense que le match, il va être booké aux petits oignons quand même pour que ça fonctionne. Faut pas trop les sous-estimer, je crois, là-dessus. Ça va être hyper scénarisé et ça risque d'être tout fait pour mettre Ronda en valeur.
Mais ils ont réussi en tout cas à nous faire un segment avec Nia Jax où elle n'était pas ridicule au micro parce qu'elle a dit juste 3 mots.
Ouais, mais il fallait pas qu'elle parle plus, parce que ça se serait vu. Il y a encore du boulot au micro pour Nia. Avançons. Mm-hmm. Ziggler affronte Gable. Ça y est, c'est le match dont on vous a parlé un peu plus tôt.
Ah, du catch. Du vrai
là,
catch.
Du catch. Voilà, ça se joue au sol, ça fait des souplesses, ça va très vite. Et c'est la victoire de Ziggy sur Super Kick. Après un petit passage dans les cordes comme ça. Gable est séché par le Super Kick. Et McIntyre rentre dans le ring après la victoire de Ziggy. Il attrape Gable et il lui place le Claymore Kick, son finish. Histoire de marquer le coup.
Ouais.
Voilà, ils font le coup de poing, Ziggler et McIntyre. Toujours aussi impressionnant, McIntyre. Ziggler, il a retrouvé la forme, il est sur la bonne voie.
Ah oui, non, mais il est revitalisé. Et même s'il fait rien, McIntyre, en fait, juste sa présence, juste. En fait, c'est le gars, il fait un petit mouvement de temps en temps, tu sais, quand il voit que Ziggler est à deux doigts de perdre, il fait un petit mouvement. En fait, il va pas dans le ring, il fait juste. Hop! Et direct, je sais pas pourquoi, direct, j'avais les yeux sur lui. Mais sacré charisme. Et. Ouais, j'ai bien aimé cet échange. C'était pas un match de ouf, mais j'ai vraiment bien aimé cet échange. Comme je le disais tout à l'heure, moi, ce que je veux, c'est ça arrivera pas parce que de toute façon, dès qu'on imagine des choses, ils le font jamais. Mais ce que je veux, moi, c'est juste que la semaine prochaine, Gable dise Kurt, je veux ma revanche. Mais cette fois-ci, je veux être contre Ziggler et McIntyre. Et elle fait, non, mais c'est pas possible, handicap match. Elle fait, non, non, mais j'ai quelqu'un pour m'aider. Et là, vouh, Jordan voilà. De retour. Et là, on est content.
Là, on est bien.
Là, on est bien.
Là, on voilà. est bien. Là, on a un bon match pour le Peuple Ordu.
Mais bon, je rêve. Et pourtant, Jordan, il met du temps à revenir. C'est fou.
Ouais, c'est étonnant. Hein. Ils vont peut-être le virer, en fait. et la semaine prochaine, Ziggy et McIntyre contre The Ascension.
Et merde.
Et voilà. Et oui. Alors, en parlant de merde, gros budget maquillage pour un Fatal 4-Way qualificatif pour le Money in the Bank. Sarah Logan, Dana Brooke, Liv Morgan, Natalia, elles sont toutes là, elles se battent. Et c'est Natalia qui gagne dans un match très nul. voilà, je sais pas, t'as quelque chose à dire là-dessus. Il y a une interview de Natalia, je crois, après, où elle dit qu'elle va gagner.
Ça intervient. Ouais. Ça intervient beaucoup. Ça, voilà. intervient de partout.
C'est intervenir.
c'est Riot Squad pour le Riot, c'est le bordel. Mais non, j'ai rien à dire. Magnifique promo de Natalia au micro qui nous a dit je gagnerai.
Voilà. Je suis aussi avec Ronda.
J'ai 10 ans d'expérience à la WWE et voilà ma promo. Je gagnerai.
Je gagnerai.
non, mais. Non, rien. Rien, rien.
Rien. Rien. C'est aussi ce qui va se passer ensuite. Ilias contre Bobby Roode. Ilias, toujours le patron, fait sa petite chanson.
Ouais.
Bobby Roode débarque, ça se fout sur la gueule, et c'est Ilias qui gagne le match sur Drift Away, après avoir fait chuter Bobby Roode du haut de la troisième corde. Là. Voilà, une victoire clean d'Ilias, quelque part.
Ouais.
Voilà. Bon, on a déjà vu ça 100 fois, j'ai l'impression, mais...
Ouais, et puis... C'est bien qu'il ait gagné, Ilias, mais moi là, on commence à être dans la zone où c'est ronflant, quoi. Il fait la même chose à chaque fois.
Ouais, il va falloir une rivalité.
La blague, oui, mais même son gimmick, même sa blague de la chanson, je trouve qu'au bout d'un moment, faudrait qu'il y ait un truc un peu. Une petite, voilà, petite variation, parce que là. Autant ça me faisait extrêmement rire pendant plusieurs mois, mais là, il faudrait qu'il passe peut-être à un autre truc. Mais c'est pas le plus gros souci. Le plus gros souci, c'est surtout que Bobby Roode a l'air d'un clown.
Oui, moi bon, ça fait des années, des mais mois et des mois.
Dans le ring et en dehors du ring, et c'est pénible. Je sais pas. C'est le plus gros boulet qu'on nous a envoyé de SmackDown.
Ouais, c'est vrai.
Au-dessus de Jinder se débrouille putain de bien. j'ai détesté Jinder à SmackDown et je trouve que à Raw, c'est franchement pas le pire import qu'on a de SmackDown. Ash qui nous dit j'ai l'impression que tout le monde était à fond sur la chanson cette fois. Oui, parce que du coup oui, il a fait un truc je sais plus, c'était quoi déjà, il faisait répondre le public et du coup en clair tout le monde adore Ilias et tout ça, et puis après il a dit surtout ne vous méprenez pas, moi je n'aime aucun d'entre vous.
voilà.
Donc voilà, oui, bon, c'était sympa, mais oh, c'est juste ça fonctionne avec le public, mais on va dire que ça fonctionne avec le public comme les WhatsApp de R-Truth fonctionneront toujours. T'as beau trouver R-Truth complètement inintéressant dans le ring, tu vas quand même chanter WhatsApp.
Il faut du nouveau.
Donc ouais, il faudra un peu de nouveau, et puis surtout Bobby Roode, mettez-le au cachot. mettez-le dans, non mais juste écartez-le pendant un temps, faites-le revenir avec autre chose. Je dis pas changer le gimmick en soi, mais la personnalité, il faut qu'il reparte sur autre chose, et là non, c'est un clown, hein. Dans la mid-card, là, entre lui et... J'arrive pas à me décider entre lui et Baron Corbin. Baron Corbin, au moins, gagne des matchs. Donc je dirais que Baron Corbin est même au-dessus de Bobby Roode dans la mid-card.
Ouais, même Bobby Roode, il est... Voilà, on ne cesse de le dire, mais son personnage de babyface, là, c'est assez insipide. Enfin, tout ça a déplu à Strowman, qui arrive... avant qu'Ilias soit rentré dans les vestiaires et qui défonçait Ilias avec le coup du petit train là. Donc ensuite c'est le main event, Braun Strowman contre Finn Balor.
Et oui.
Donc bah, un gros match hein, où Baylor est quand même surclassé par la puissance de Strowman, mais il va tout tenter pour essayer de gagner la victoire avec des sling blades dans tous les sens, des esquives, des drop kicks. Il va réussir à placer son sling blade pour contrer le coup du petit train de Strowman. Mais après, il va tenter son shotgun drop kick, mais c'est Strowman qui va le percuter. Et finalement, bah, c'est Strowman qui gagne en plaçant le Running Power Slam. Il se sera très très bien battu, Finn Balor. C'était un gros match de main event. Hein. Maintenant, comme il n'y a pas de rivalité derrière, ben, ça, finalement, il y avait peu d'enjeux, assez peu d'intensité. C'est dommage.
Ça me rappelle un autre gâchis, c'est quand Sami Zayn avait voulu affronter Strowman plusieurs fois.
Mm.
En mode, bah, pour le coup, total babyface. Non, j'en ai rien à faire. Il respecte aucune règle.
Ouais, c'est ça. C'est...
Donc voilà ce qui avait donné. Je sais plus le deuxième. Je sais plus si c'était le deuxième ou troisième match qui avait duré jusqu'à une. Il y avait un temps limite. Je crois qu'il avait 10 minutes pour se battre.
Il devait survivre 10 minutes contre.
Il avait survécu 10 minutes. Et ça nous aurait fait une bonne vraie rivalité s'ils avaient juste pas abandonné le truc en chemin. C'est toujours intéressant d'avoir un très bon catcheur qui est un peu dans la carrure cruiser quoi contre un géant et ça c'est le genre de truc qui marche toujours et qui peut faire des super bonnes rivalités. Je sais pas pourquoi ils en font plus des rivalités comme ça. C'est dommage parce que c'est une vieille recette qui fonctionne bien et du coup le match fonctionnait très bien. Pas tant parce qu'on suspectait peut-être une victoire de Balor. En tout cas, moi, j'y crois. J'ai jamais cru. Puis ça aurait pas vraiment de sens. Mais juste savoir à quel point Balor peut repousser Strowman, comment il peut se débrouiller pour le diminuer et tout ça. Et voilà, ça a donné vraiment un bon match avec beaucoup d'intelligence de Strowman aussi hein, parce que il s'est pas tout le temps fait avoir sur les trucs sur lesquels se font avoir les géants généralement genre par exemple je sais plus à un moment Balor tente de il court sur le bord du ring pour sauter sur Strowman ou pour faire un front drop kick je crois sur Strowman et Strowman le rattrape, je sais plus ce qu'il lui fait, mais voilà, ça a encore démontré que Strowman était non seulement un géant mais aussi un mec qui en a dans le cerveau,
dans le ciboulot.
Et puis Balor comme babyface ultra courageux, un peu dans la même idée que Rollins dans son match, enfin dans son Iron Man match auquel il n'a pas survécu pendant tout le match, mais qu'il a survécu pendant une heure. Donc on est un peu dans le même ordre d'idée. C'était bien. L'embêtant, ça débouche sur rien. Une nouvelle fois. Hein. C'est un peu la thématique
bien,
de la soirée. Ça débouche sur rien.
On patine du fait du Money in the Bank. Finalement, le vrai enjeu du pay-per-view qui va venir, ça va être Money in the Bank. Donc, ils ne s'embêtent pas à faire des rivalités vraiment très construites. Mais bon, il faut quand même construire un show avec un main event chaque semaine. Donc, on balance les grosses affiches avec le roster qu'ils ont. Ils ont toutes sortes de possibilités. Je trouve que c'est un peu dommage de bazarder un tel affrontement Strowman-Baylor comme ça en weekly. Mais apparemment, c'est la donne en ce moment, je suppose, parce qu'ils sont toujours en négociation pour le renouvellement des droits, qui a l'air de se passer plutôt bien.
Ça n'avait pas été officialisé, du coup, ce truc du renouvellement des droits.
Alors, je crois que pour SmackDown, ça part sur la Fox.
Ouais.
Le vendredi. Et apparemment, Raw, je ne crois pas que c'est officiel, mais alors, ça a été fait aujourd'hui et je n'ai pas vu. Mais ils re-signent Raw avec le USA Network NBC pour 3 fois le prix actuel.
Ouais, c'est ça. C'est,
Donc là, ils ont fait carton plein, ils vont être pétés de thunes. Voilà, NBC a pas pris SmackDown parce que ça coûte trop cher déjà de prendre Raw. C'est quand même très fort de vendre trois fois le prix à un show qui a de moins en moins de spectateurs. Hein. C'est encore un tour de force là de Vince. Et les spécialistes se posent la question parce que désormais Raw c'est plus rentable que les pay-per-view. Donc à un moment donné, est-ce que tu mets tous tes œufs dans les pay-per-view ou est-ce que c'est Raw qui va devenir l'attraction principale? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de grosses défenses de titres à Raw? Ça risque un peu de modifier la configuration un peu de la gestion des shows. Ouais, l'avenir nous le dira. Et on a appris aussi que les pay-per-view de la WWE feraient 4 heures désormais. Bon, moi, vu les rosters qu'on a, SmackDown, Raw et 205 éventuellement, 4 heures, il n'y a plus qu'un pay-per-view par mois. S'il y a bien des gens qui peuvent le faire, c'est la WWE. Maintenant, il faut espérer qu'ils s'appliquent, quoi.
Donc 5 heures avec le pré-show.
5 heures après que le pré-show. Ouais.
Peut-être,
mais bon,
ouais.
Le pré-show.
Mais
il va falloir faire le deuil des pré-shows.
Je suis allé rechercher. Du coup, c'est 1 milliard sur 5 ans.
Ouais.
C'est ça. SmackDown. C'est Hollywood.
Hollywood 1 milliard pour SmackDown, quoi. C'est le deuxième show. Hein. C'est le B-show SmackDown. Mm. Ils ont fait carton plein là, c'est incroyable.
Ouais.
Incroyable. Ils ont pété le tuile et c'est Brian Alvarez qui est du Wrestling Observer qui expliquait que même si quand ils vont négocier dans 5 ans, ils peuvent plus le revendre aussi cher, c'est même plus grave, ils peuvent baisser les prix, ils pourront brader s'ils veulent.
Ah oui.
Et maintenant, là, ils vont toucher tellement de pognon par épisode que. Hein, l'épisode ça a un coût qui est déjà comblé par ce qu'il touche maintenant. S'il touche encore trois fois plus, on aura peut-être droit.
Je pense que ça se joue. En fait, les gens sont choqués par le prix, mais je pense pas que ça se joue au fait que l'audience soit grande. Ça se joue au fait que l'audience c'est constante en fait.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une érosion, mais elle est très petite. Hein.
Ouais, voilà.
Les gens qui sont maintenant qui regardent, c'est des personnes qui ont plus de 50 ans et. C'est pas des gens qui vont changer d'habitude, ils ont l'habitude de regarder Raw lundi et vont continuer à regarder Raw lundi comme les retraités qui regardent
Du coup ils vont regarder SmackDown le vendredi, c'est ça, il me
semble. C'est ça, bah SmackDown c'est différent, ça fait moins, c'est bon, ça fait beaucoup aussi, mais
après moi je suis pas mécontent, enfin au moins la bonne nouvelle là-dedans, je trouve que c'est bien que les deux choses soient un peu plus écartées.
Ouais.
Qu'on n'est pas, justement pour nous, c'est pas les mêmes équipes. On a une équipe qui couvre Raw, une équipe qui couvre SmackDown, mais n'empêche que c'est plus sympa de. Là, quand on vous fait le podcast de Raw, en fait, on connaît les résultats de SmackDown. Souvent, il y a des choses qui sont en lien et tout ça, donc c'est pas très pratique. J'aime bien le fait qu'ils soient un peu plus séparés. Donc, voilà. Ça va juste foutre Giscard et Yerem dans la merde parce qu'ils devront faire un podcast le week-end.
C'est ça. Malik espère que le vendredi ce sera en direct SmackDown. C'est pas sûr ça. Ouais. C'est délicat parce que je crois que c'est leur jour de repos aux catcheurs.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, peut-être qu'ils vont juste, ils vont décaler leur show live maintenant. Ils vont décaler dans la semaine. Je pense qu'ils peuvent s'arranger. Je pense pas que la Fox lâche 1 milliard pour un show qui est enregistré. Ça c'est
ce sera encore un tour de force.
Ouais, non mais la marque live, enfin la marque en direct est quand même vachement importante, quoi. C'est-à-dire que même si elle est pas énorme, il y aura forcément une baisse de vues du show parce que maintenant les shows de la WWE, même si ça reste, il y a quand même aux États-Unis une culture catch qui est un peu plus grande que genre en France où c'est vraiment les gros gros fans qui regardent. Ça n'empêche que leur audience qui est justement constante, c'est des fans de catch. Donc les fans de catch, quand même, ils sont un peu renseignés. Et je pense que ça nuirait vraiment à leur audience si le show était enregistré combien ? 4 jours avant ? 3 jours avant ? trois jours avant quand même, c'est il y a le temps que tout fuite. En plus, la WWE adore faire fuiter, enfin adore publier le moindre truc sur leur site. Des moments, ils font spoiler. Ils vont même spoiler des épisodes d'NXT qui arrivent bientôt, hein, où ils te mettent un extrait sur le Facebook ou sur le Twitter, etc. Donc non, je pense que ça restera en live. Ils vont s'arranger.
Croisons les doigts.
Et en plus, le vendredi, du coup, je pourrais presque regarder en live. Enfin, pas à chaque fois, mais au moins.
Attention à ta santé, quand même. c'est l'heure du mot de la fin, dis donc.
Et oui.
Il faut un top, un flop et une note.
Le match Gable-Ziggler. Et j'espère vraiment cette arrivée de. Il y a une chance sur un million, mais j'espère vraiment cette arrivée de Jordan, parce que ça me paraîtrait tellement parfait pour ensuite construire une petite rivalité. L'embêtant, c'est qu'ils ne seront pas en pay-per-view parce qu'ils n'ont pas la ceinture, etc. Mais bon. Mais donc voilà, le segment avant et le match Ziggler-Gable, moi c'est le truc qui m'a le plus branché, même si Balor-Strowman était très bien. Mais tu vois, pour moi, il n'y a pas de perspective derrière Balor-Strowman, donc... Et puis, le pire, on sait déjà ce que c'est.
Voilà. Les sœurs Lashley. Ouais. Les trois sœurs Lashley.
Et ma note,
un et demi vendu.
Je vais mettre un et demi parce qu'il s'est rien passé dans ce Raw. Il y a eu le pire segment de l'année et il y a eu deux matchs qui étaient bons et le reste était juste mauvais ou vraiment passable. Et c'est chiant. Les trois quarts du show étaient chiants.
Voilà. Tristitude. Voilà, un et demi. Je vais donner mon top. Je vais quand même donner mon top à Sami Zayn qui a su s'en sortir malgré le petit de boulet qu'ils l'ont mis au pied. Et le flop, je vais le mettre aussi au sœur Lashley, hein, parce que c'était dégueulasse. On ne veut plus voir ce genre de choses. C'est fini, les nains, les travelots, non, merci. Les travelots, un vrai travelot encore.
Ah oui, on a eu aussi les nains en pancakes. Les nains en pancakes, c'est la seule manière.
Ça, c'est pas possible, faut arrêter ce genre de choses. Voilà, ça c'était mon Daylight Raw de cette semaine.
Ouais.
On espère que ce sera mieux la semaine prochaine.
N'oublie pas ton petit retour sur le live event.
Exactement, j'y arrive. voilà, Paris, c'était le 19 mai.
C'est fini.
J'étais au live, c'est fini. C'était une soirée, alors on va pas se mentir, c'est une soirée extraordinaire. Alors autant en Raw, c'était pas terrible, autant ce live show, c'était vraiment très 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 cool. Ambiance de folie, la salle était blindée, on était d'après Christophe Agius qui était sur place, à peu près 11 000 places vendues. Moi j'avais fait le house show de Strasbourg il y a quelques années, là c'était clairement la classe au-dessus, plus de star power, plus de matchs, plus de matchs de qualité.
C'était l'an dernier.
C'est l'an dernier Strasbourg ?
Ouais, parce que j'étais à Lyon.
Bah oui, bah voilà. On a 8 matchs je crois en tout. Ça a commencé avec un championnat tag team. Hardy, Matt Hardy et Bray Wyatt en triple frite contre Bo Dallas et Curtis Axel et Rhino et Heath Slater. Franche rigolade, des chants ECW pour Rhino, The B-Team qui nous faisait rigoler, Matt Hardy qui lançait ses Wonderful, qui faisait applaudir la salle pour les standing ovations. Pas un match de grande classe au niveau technique, dans la gaudriole.
Ils étaient habillés B-Team aussi.
Ils étaient habillés B-Team. Hein. C'était la B-Team, ils sont venus avec les t-shirts. Hein. Ils sont bien fait huer par la foule, ils ont bien pris la hit. C'était ça. Heath Slater, il fait tellement rigoler dans le ring quand il commence à se battre, tellement il est mauvais. Ça c'était pour la mise en bouche. Après, on a eu les cruisers qui sont arrivés, Cédric Alexander et Mustafa Ali, pour peut-être niveau technique, sûrement le meilleur match de la soirée.
Ah ouais, ça va être bien.
Ouais, ça a voltigé, c'était sympa. Les chants This is awesome, lancés par la foule au bout d'un moment. Il y a eu donc cette interaction avec le public, puisqu'il y a des supporters de Tristan Archer, Clément Petiot, qui sont venus réclamer Clément Petiot avec des chants vibrants de Petiot. Quand on n'est pas au milieu du truc, c'est un peu déroutant. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, je vois le but, c'est vraiment bien d'aller se battre pour son catcher, voilà, pour essayer de le vendre. Après, ça faisait un peu irrespectueux pour les pauvres cruisers qui bataillent toujours pour mettre l'ambiance et tout ça. Mais on ne peut pas blâmer les chances CM Punk, etc. dans les matchs cruisers et de l'autre côté faire la même chose avec d'autres noms, Audi Malik. Voilà, on va mettre ça sur le cri du cœur des fans français qui veulent un français à Raw. Cédric Alexander connaît Clément Petiot, ils sont affrontés au Cruiserweight Classic. À la fin, il a pris la petite fiche Clément Petiot, Cédric Alexander, pour faire la pub. Mais c'est sûr que c'était un peu déroutant pour le public et voilà, il faudra peut-être trouver une autre manière de faire les choses la prochaine fois si entre temps ils ne l'ont pas signé, quoi, Clément Petiot, ce qui serait quand même sympa. Mais bon, au final, il n'y a pas eu de casse puisque quand même le public a chanté This is awesome avant la fin, donc et c'était peut-être le meilleur match de la soirée.
Il y a Ibrad sur le chat qui nous demande vos impressions sur les NXT Live du 11 juin. Il y en aura, j'y vais. Je crois que l'amiral y va et Yarem y va, donc t'auras des impressions, ne t'inquiète pas. L'amiral dans le NXT tout seul, moi sûrement dans un podcast. Tout ça, et on aura peut-être même une réunion avec des podcasters, c'est pas encore tout organisé, mais on sera peut-être sur un autre show
en parallèle.
On s'exporte, okay.
Vous exportez, moi j'y serai pas, je serai en vacances. Je suis bien triste que la WWE ait posé ce show là pendant que je suis parti. Qu'est-ce qu'on a eu après? Laisse-moi réfléchir, je crois que c'était les filles. Championnat féminin, Nia Jax, Alexa Bliss, Bayley, Sasha Banks. Bayley toujours très populaire.
D'accord. Ah ouais. Le All-Star là.
Le All-Star, c'était plutôt cool. Sasha Banks, Bayley, c'est pas la même limonade quand c'est en live event. Elles sont toujours super populaires. Alexa Bliss, elle a une pop de malade. Nia Jax, ça passe. Ça fonctionne bien quand elle est contre Alexa Bliss encore. Voilà, plutôt un match sympa où il y a eu aussi pas mal d'interactions un petit peu avec le public. C'était plutôt réussi. Bon, victoire de Nia Jax, évidemment. Après, on a eu un autre.
C'était pas tag team. C'était genre chacun pour soi.
C'était un Fatal 4-Way. Hein. Okay. Fatal 4-Way, donc voilà, beaucoup plus cool pour la ceinture. Hein, donc c'était. Ça s'est bien battu de part et d'autre. On a enchaîné, je crois, sur un tag team. Zack Ryder et Chad Gable ont affronté Goldust et qui était avec Goldust qui pouvait bien être avec Mojo Rawley, qui a été copieusement hué. Mojo Rawley fonctionne très bien en heel. Il a quand même un physique impressionnant hein, quand on le voit en live comme ça. Ouais. Chad Gable exceptionnel dans le ring. Goldust en très bonne forme aussi, et qui s'est fait un peu pourrir par la foule aussi là, qui a chanté des chants goodbye un peu pour l'envoyer à la retraite. Ouais. Mais bon, c'était de bonne guerre, puisqu'il était en mode heal, hein, Goldust, donc pas de souci. Voilà, un match plutôt bien cool aussi, bien enlevé. C'était plutôt sympa.
Putain, j'aurais bien. Je sais que c'est mal vu, mais je suis fan de Zack Ryder. J'aurais vraiment bien vu ce match. Ryder et Gable, tu vois, à la limite, si Jordan revient pas, Ryder et Gable, moi ça me va aussi.
Ouais, ça fait une bonne tactique efficace.
Broski Boot! Broski.
Ouais, j'ai toujours populaire aussi, le Ryder. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Je crois bien que c'était le championnat intercontinental. Seth Rollins contre Jinder Mahal. Pour moi, ça, c'était le match de la soirée. Ça va peut-être être mon match de l'année parce que c'était avoir en live comme ça, c'était assez exceptionnel. Seth Rollins, il est devenu incroyable. Je l'avais vu en main event contre Kevin Owens, c'était plutôt pas mal.
Ouais.
Alors là, c'était carrément la classe au-dessus. Il y avait le star power qui transpirait de partout. Il a fait des moves excellents. Le match était super bien construit. Jindermal, il était exceptionnel.
Non, mais c'est assez incroyable. Du coup, en fait, ils nous font le bon booking, la bonne programmation. En fait, elle se passe dans les live events où Seth Rollins remplace Roman Reigns. Et là oh mon dieu, ouais. Un babyface qui marche.
Ouais.
Incroyable. Bah,
à la fin, j'étais avec ma femme, hein, et elle s'y connaît pas plus que ça. Elle regarde de loin quand je regarde.
Mm-hmm.
Quand il y a Seth Rollins, quand le match est terminé, elle a dit bah, c'est lui la vraie star du show. C'est lui le number one, quoi. Mais number one, il vient plus tard. c'était peut-être un peu plus tard dans le show intercontinental. Je confonds peut-être, mais bon. Ça, en tout cas, c'est, pour moi, ça restera un très grand souvenir. C'était vraiment très, très cool. Il y a eu une construction avec aussi le petit Sami Singh dans le coin là, qui est venu interférer.
Mm-hmm.
Et Jim Normal, il était vraiment très impressionnant physiquement aussi. Et il était propre dans le ring. Il était vraiment bien, bien dans sa place de méchant heel. Il s'est fait huer comme c'est pas permis. On a eu un Baylor contre Baron Corbin qui était plutôt pas mal aussi. Baron Corbin qui a attaqué Baylor tout de suite avant la fin de son entrée. Bon, il a une hit un peu plus paresseuse, Corbin, mais il se fait huer aussi bien copieusement. Il a beaucoup subi. Baylor, il a fait un bon comeback à la fin. Mm-hmm. Classique heel contre face. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Bah, on a eu Ronda Rousey. Donc ça, c'était un match 3 contre 3. Ronda, il y avait avec elle, que je te dise pas de bêtises, Natalia et Ember Moon. Mm-hmm. Alors là, j'ai popé hein, quand il y a Ember Moon qui est venu. Ouais. Et en face, c'était deux du Riot Squad. Donc Ruby Riot et Liv Morgan.
Mm-hmm.
Et Mickie James.
D'accord.
Donc ça c'était plutôt pas mal parce qu'il y avait Ember Moon qui a fait 2-3 trucs cool et le comeback, alors par contre quand Ronda est arrivée dans le ring, le comeback, le peu où elle a catché, ça a duré pas très longtemps mais c'était exceptionnel. Elle a une manière de catcher qui est assez originale parce que c'est adapté à ses moves de judo et de MMA et ça a fonctionné du feu de Dieu. Elle a l'air de vraiment faire mal à ses adversaires. C'est pour ça que je suis pas inquiet pour le match contre Nia Jax. Je pense qu'ils ils travaillent son booking vraiment de précision pour qu'elle soit vraiment mise en valeur. Tout va jouer sur le combat qu'elle va faire et ça va être sympa. Elle est super populaire. Elle a des cuisses musclées, c'est incroyable. On voyait ses muscles là de d'où on était. Oh là là. Voilà. Donc ça c'était plutôt cool aussi. Et je crois qu'on arrive au main event.
Mm-hmm.
Qui était un fatal fatal four way ou c'était non c'était un 3 contre 3 les méchants Kevin Owens,
Sami Zayn
non attends voir Sami Zayn il est arrivé
non
il y a eu d'autres trucs, il y a eu qu'est-ce qu'on a eu, on a eu Bobby Roode qui est venu interrompre Elias qui était à la guitare.
Mm-hmm.
Ça c'était super cool aussi. Là, Yass, il a parlé en français, il a joué avec la foule, c'était excellent. Bobby Roode, il est arrivé 30 secondes, il a posé son Glorious DDT, joué avec la musique là. Son entrée, c'est incroyable. Finn Balor et Glorious, c'est les deux trucs, deux meilleures entrées là. Et hormis ça, on a eu aussi, on va arriver au main event. Hein. Donc effectivement, c'est Kevin Owens, Sami Zayn et Samoa Joe, bordel. Je pensais pas que Samoa Joe était là, j'ai popé comme un porc. voilà, il a affronté Lashley, Braun Strowman et Roman Reigns.
Donc,
il y avait une chance de gagner pour les méchants, mais c'était un match super cool. J'étais trop content de voir Samoa Joe. Braun Strowman, c'est incroyable comme il est populaire. Roman Reigns, il a eu une grosse pop. Il y a eu quelques huées, mais ça a été englouti par la pop. Il était là, ça fonctionnait quoi du coup.
Mm-hmm.
Lashley aussi était populaire bizarrement. En même temps, franchement, quand tu le vois en live, Lashley, il est impressionnant aussi. Hein. Il a un physique incroyable. Hein. C'était un super match avec un gros retour à la fin de Braun Strowman et de Roman Reigns. C'est un peu Bobby Lashley qui s'est pris la hit pendant tout le truc. C'était sympa de voir Lashley se faire malmener par Zayn, voir Samoa Joe bouger dans le ring. Kevin Owens, qui était toujours excellent à faire la tronche, il prend le micro pour parler. Il dit non, en anglais, il mérite pas qu'on parle français.
Ouais, ça il l'a fait. Voilà. C'est son grand truc.
Sami Zayn qui danse là, c'est incroyable. Donc voilà, super main event. Franchement, il y avait rien acheté dans le show. C'était vraiment excellent du début à la fin. Grosse ambiance. On était avec IRM, on a bien rigolé. On a vu les copains des cahiers du catch. Boire une bière avant. Et puis voilà,
Et t'as pris une photo avec Ajus. Que je n'ai pas sous la main. Regardez, allez sur le Twitter.
Allez sur
twitter.com/ketchupcdc.
Ça, je l'ai vu à la toute fin. Parce que bon, après, on est resté un petit peu sur Bercy, histoire d'aller boire une bière, manger une pizza chez Ratatouille. Vous savez, la souris. Voilà, j'étais dans un restaurant où il y avait des souris entre les sièges. Faites attention aux brasseries sur Bercy. Puis en revenant, juste avant de prendre le métro, ils étaient au bar en face de Bercy. Là, je t'ai fait un petit coucou. Et j'ai eu droit à mon petit selfie. Il est très très gentil, Christophe Ajus, Philippe Chéreau également. C'est vraiment, ils méritent leur réputation. C'est la crème de la crème. Ils sont vraiment accueillants, gentils, parce qu'il était très tard. Hein, donc, ils auraient pu très bien m'envoyer chier. Ils étaient en famille. Moi, j'étais un petit peu éméché. Ils ont été adorables comme tout. Voilà, donc WWE en live event, allez-y. C'est vraiment exceptionnel. Pour là, cette fois-ci, j'étais pas au premier rang, j'étais dans une place standard, mais c'était tout aussi explosif. Il y avait une telle ambiance, c'était blindé. Donc voilà, c'est une excellente soirée, franchement, à refaire. Et je vous invite tous à y aller, puis aller à NXT là, allez-y pour moi, éclatez-vous pour moi.
En la mémoire de Ringside.
En ma mémoire, voilà. Non, ça me fait mal au cœur de pas pouvoir y aller, mais profitez-en, il y a des places encore, c'est pas cher. Vous pouvez même trouver des trucs VIP à pas trop cher si vous avez les moyens. Voilà, gros gros succès, gros gros soirée, bravo la WWE. On vous aime quand même, même si vous faites des Monday Night Raw tout pourris, voilà. Et que vous êtes associé avec des pays un peu bizarres. voilà. Hank, bon,
ouais.
On arrive au bout. Merci d'être venu.
De rien.
Merci pour l'organisation, merci pour tout. Et puis, alors, je vous rappelle qu'on nous retrouve sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. On est aussi sur Facebook, sur Twitter, c'est CatchUpCDC. On est sur Instagram aussi, d'après ce que j'ai compris. voilà, il y a le supplément SmackDown qui arrive. Il y a NX tout seul qui arrive. Donc, il faut vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il faut mettre des likes.
Hein, il faut mettre des likes.
Voilà, likes, commenter, etc.
Non, mais ouais, donnez votre avis sur ce segment horrible ou sur le show live à Paris, si vous y étiez. Votre moment préféré, tout ça. Et n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires si vous allez à NXT Paris. Tout seul. Et si vous y allez tout seul, mais donc voilà, parce que voilà, on va sûrement se réunir, qui sait, à plein de gens, et pourquoi pas les fans de Catch-Up si vous y allez. Donc voilà, n'hésitez pas.
Voilà, c'est bon, tout est dit.
Tout est dit.
Ajouter. Oui. Eh bien, dans ces cas-là, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao ciao.
Salut.